a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. John Linden à la présentation. Cette émission est produite par Georges Léonard Sagnot, cassiste tchèque, et puis mon ami Souleyman Tarawale est à la régie. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, nous parlons de harcèlement sexuel. C'est une actualité qui fait grand bruit depuis que l'affaire a éclaté au grand jour. En début octobre, de nombreuses femmes accusent le producteur Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agression sexuelle. Dans une tribune publiée dans le New York Times ce vendredi, l'actrice Lupita Nyong'o révèle que Harvey Weinstein l'a harcelée à plusieurs reprises pendant des années. Le réalisateur Quentin Tarantino, un grand ami de Harvey Weinstein, a pour sa part aussi révélé hier avoir été au courant depuis longtemps des agissements du producteur et a dit avoir regretté de ne pas avoir fait ce qu'il aurait dû faire pour dénoncer ce comportement. Mais Harvey Weinstein dit n'avoir jamais violé de femme et que certaines de ses relations sexuelles étaient consentantes. Alors, que pensez-vous du harcèlement sexuel? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Vos commentaires et réactions sont attendus et sont les bienvenus sur Facebook et en direct au 001-202-205-2623. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur www.voafrique.com. Pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous avons Henri Désiré Nzosi depuis la Belgique. Henri, bonsoir.
Oui, bonsoir John et bonsoir à nos auditeurs.
Merci pour votre disponibilité. Nous avons également Gwendoline Fongu, elle est journaliste à New York. Elle est à New York en ce moment. Gwendoline, bonsoir.
Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde.
Voilà, merci d'être là. Nous avons depuis la Californie, Reine Marie Ibok, elle est étudiante. Reine Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, nous devrions également avoir dans cette émission Jean-Pierre Beccolo, producteur, cinéaste. Est-ce qu'il est en ligne, Georges? Non. On a plutôt Alassane Fall du côté de Cleveland. Alassane, bonsoir.
Bonsoir, John.
Merci à tous les invités. On va commencer par une question simple. Alassane, puisque vous êtes là, le dernier à avoir dit bonjour à nos auditeurs, comment est-ce que vous analysez cette actualité sur ces affaires d'accusation de harcèlement sexuel?
Ok, d'abord pour commencer, je voudrais dire à toutes les femmes qui sont victimes de ces épisodes que toute notre empathie donc envers elles. Alors moi je dirais que c'est des actions qui sont, je dirais, monstrueuses, okay? C'est scandaleux. Donc dès le début, je vais être clair que c'est inacceptable. Malheureusement, c'est un phénomène qui se passe ici aux États-Unis, bon, un peu partout, okay? Surtout au milieu professionnel, ça se passe. Donc c'est un phénomène que nous comptons tous combattre. Mais heureusement, il y a quand même des mécanismes qui sont en place pour aider ces victimes-là à s'en sortir. Maintenant, le seul problème que je veux vraiment présenter avant de donner la parole aux autres, c'est qu'après les faits, les femmes n'ont pas le support parfois ce qu'il faut. C'est pourquoi elles prennent du temps à venir pour déclarer ces faits-là. Donc, quand l'événement ou l'action se passe, on appelle ça physique, mais ce qui est encore pire, c'est l'aspect du support. Donc, c'est pourquoi l'aspect intellectuel ou mental reste on laisse des séquelles pendant très longtemps.
Voilà, merci Alassane. On va donner la parole aux femmes, mais si les dames le permettent, je vais demander à Henri Désiré comment vous accueillez-vous cette actualité-là là-bas. Et puis, Alassane le disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est toujours longtemps après les faits qu'on est au courant? Henri.
Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que n'eût été le profil extrêmement médiatisé d'Harvey Weinstein, on aurait continué à vivre normalement, alors qu'il y a de millions et de millions de femmes qui sont victimes chaque jour de harcèlement. Il faut aussi peut-être rappeler que des profils se ressemblent dans le cas d'espèce, puisque c'est généralement des hommes de pouvoir connus pour aimer les femmes et qui sont valorisés en tant que tels, jusqu'à ce qu'elles décident de briser le silence. Alors, ce que montrent aussi ces affaires, et ça a été rappelé il y a quelques instants, finalement, c'est qu'il y a une forme de répétition, une forme de mécanique implacable, celle qui consiste à voir le harcèlement prospérer sur les inégalités de pouvoir entre les hommes et les femmes, dès lors que la femme, évidemment, est en position de faiblesse. Et cela se fait à tous les niveaux et dans toutes les couches sociales de la société, donc. Alors, j'aurais également ajouté le fait que c'est un phénomène qui n'est pas anodin parce qu'il crée effectivement chez la femme, même s'il y a une proportion d'hommes, mais à la marge, une sorte d'état de sidération chez les victimes. Et c'est là précisément que se pose le problème parce qu'il y a une véritable ambiguïté dans le débat sur ce que d'aucuns considèrent comme étant le consentement, dire clairement oui, dire clairement non, bref, des choses qui se nourrissent de règles de séduction qui nous rappelle finalement l'image un peu funeste de l'homme chasseur et de la femme dans la position de la proie. En d'autres termes, ce n'est pas seulement une histoire de mauvaise rencontre, parce que c'est vrai que les femmes sont généralement désarmées face à ce type de situation, mais c'est aussi, et j'en terminerai par là, le produit d'une société au fonctionnement profondément inégalitaire.
Alors, merci Henri. On va donner la parole aux femmes. Gwendoline Fongou, vous êtes journaliste originaire, me semble-t-il, du Cameroun et vous êtes à New York en ce moment pour une formation. Comment est-ce que, quand vous arrivez ici, vous vivez une telle actualité? Le harcèlement sexuel, comment il est vécu par vous, aussi bien ici qu'en Afrique?
Merci bien pour la question. C'est un fait qui ne se nie pas. En tant que femme, je vais dire que surtout en Afrique, c'est un phénomène qui se répète presque tout le temps. Les femmes sont la plupart du temps réduites en chaude, hein, si je peux utiliser ce terme. La plupart du temps, ça fait en sorte que les femmes ne se sentent pas, assez fortes ou assez compétentes pour avoir certaines opportunités qu'à les hommes. Et pour cela, quand on est une femme peut-être belle, agréable et tout, la plupart du temps, on a des femmes qui subissent différentes faits d'harcèlement. Pour moi, j'ai déjà eu à avoir, à rencontrer certaines personnes qui ont eu à me harceler par rapport à certains. Excusez-moi, je suis dans le subway de.
Voilà, on va revenir vers vous, Gwendoline. Le temps pour nous d'aller en Californie où tout cela se passe décidément. Reine-Marie Bock, vous êtes étudiante et vous vivez en Californie. Déjà, comment vous voyez cette actualité et qu'est-ce que vous pensez du harcèlement sexuel?
Bon, alors, me concernant, déjà, le harcèlement sexuel reste carrément un délit pour la société, quelle que soit la relation entre l'auteur et la victime. Et je pense que, comme toutes les lois, la loi américaine comme toutes les autres, essaye de trouver des sanctions adéquates à ce type d'acte-là. Alors, il est omniprésent dans tous les secteurs de la société. Ça veut dire que vous pouvez être harcelé à l'école, vous pouvez être harcelé au boulot, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un enchaînement d'ajustements, généralement à connotation sexuelle, qui vont à l'encontre des principes de la victime, quoi. Et elles visent généralement à intimider, parfois à dominer, parfois à obtenir un acte sexuel.
Voilà.
Donc, Voilà, les femmes, généralement, quand elles subissent ce genre d'actes-là, les conséquences sont souvent beaucoup plus d'ordre psychologique et, disons, parfois physique. Psychologique, pourquoi ? Parce qu'elles sont frustrées après, elles n'arrivent pas à s'ouvrir après, elles n'arrivent pas à parler. Si c'est dans le cadre du travail, elles sont frustrées. Elles ont la peur, elles ont la crainte de perdre leur boulot, leur emploi. Elles sont impuissantes face à celui-là qui les a harcelées. Voilà, elles ont des dépressions, il y a de l'anxiété, et ainsi de suite. Donc voilà, de nos jours, ce que je peux dire, de nos jours, c'est on vit avec, quel qu'en soit le lieu où on se trouve, nous sommes harcelés de partout. Mais moi, ce que je reproche carrément aux femmes, c'est de se taire. C'est de ne pas chercher à pouvoir s'ouvrir, de ne pas chercher à rencontrer des psychologues qui vont nous aider dans ça. Donc, voilà ce que moi, je peux dire.
Alors, merci. Vous restez avec nous. On va prendre, si vous le permettez, un auditeur au téléphone, Hassan Omar Boulalé. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, votre point de vue ?
Bonjour, je crois que ce qui est très important, c'est que l'harcèlement, il existe partout dans le monde, et surtout en Afrique, c'est quelque chose qui est très important. Et la dénonciation, elle est retardée en Afrique, où souvent elle est inexistante, pour des raisons qui sont souvent liées à la société. C'est une société souvent patriarcale, donc l'homme est plus fort que la femme. Mais là, en Afrique, c'est souvent quelque chose qui est très important. Et souvent, la pauvreté et le chômage qui perdure et qui est très important, les femmes souvent ne dénoncent pas leur harcèlement. Par exemple, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a un stage qui fonctionne dans l'Internet, qu'on balance son bord. Mais en Afrique, on ne peut pas balancer son bord, entre guillemets.
Voilà.
Donc, il faut essayer de créer un organisme au sein de l'Union africaine qui vient en aide les femmes africaines qui souvent subissent ces formes d'agression qui est très importante. Il faut donner ça aussi, parce que ce qui est très important, c'est la personne, c'est pas le boulot ou le statut social qui est plus important que la femme.
Alors, merci beaucoup Hassan Omar. Henri Désiré, qu'est-ce qui, à votre avis, peut pousser un homme à être si méchant, devrais-je dire ou pas? Mais pourquoi est-ce qu'un homme peut agir comme ça avec pas une femme, pas deux, pas trois, des dizaines de femmes, et cela dure des années et ça continue?
Je dirais que il y a d'abord le sentiment d'impunité. Dès lors que la personne répète cet acte sur la durée, il y a effectivement une montée en puissance qui incite cet homme à recommencer, bien évidemment. À côté de ce sentiment d'impunité, il y a également l'emprise, finalement, sur les victimes, parce que, finalement, le harcèlement joue sur des ressorts psychiques. Et ces ressorts psychiques se résument tout simplement à des rapports de force et de domination. Et à ce petit jeu-là, lorsque vous êtes un homme de pouvoir, vous avez, en règle générale, des femmes qui sont à votre merci et qui, pour des raisons d'avancement, de promotion ou tout simplement de survie dans un environnement hostile, n'ont d'autre choix que de céder. Et le plus difficile pour elles, évidemment, c'est de pouvoir se confier sur ce qui leur est arrivé. Et c'est pour cette raison qu'en règle générale, il y a toujours un élément déclenchant, c'est-à-dire au départ, une femme ou deux, puis trois, puis quatre, qui prennent ce courage et qui entraînent dans leur sillage d'autres femmes qui, pour des raisons qui leur sont propres, se sont plus jusque-là.
Alors, Henri, je me permets de vous couper. Harvey Weinstein dit n'avoir jamais violé de femmes et que certaines de ses relations sexuelles étaient consentantes. Ça reste pour l'instant que des accusations. Mais est-ce que, quelque part, ces femmes disent la vérité? Est-ce que c'est prouvé ce qu'elles disent?
D'après ce que l'on sait, il y a deux femmes, deux actrices qui auraient eu une relation, en tout cas sexuelle, non consentie avec Harvey Weinstein, parce que, malgré leur refus, il a franchi, je dirais, la ligne. Pour les autres, évidemment, c'est un peu plus compliqué à déterminer. Mais, vous savez, en France, par exemple, dans le droit français, il y a eu la notion de consentement tacite. C'est-à-dire qu'on peut donner son accord sans le faire explicitement. Et donc pour le harceleur, il est facile de dire « oui, mais bon, elle m'a refusé violemment, mais elle était consentante ». Tout ça rend les choses extrêmement ambiguës, bien évidemment. Et on voit bien que cette notion est problématique dans le cas de harcèlement, parce qu'elle ne permet pas finalement de déterminer avec précision le degré de consentement de la victime.
Voilà. Alassane Fall, dites-moi, ici aux États-Unis, on constate que lorsqu'une affaire a trait au harcèlement ou à des rapports harcèlement sexuel, on va dire, ça fait toujours jaser, ça fait même tomber des têtes. Pourquoi cette culture ici aux États-Unis, alors que contrairement, en Afrique, on a le sentiment que c'est accepté et que ça fait partie de la vie?
Oui, mais d'abord, tu sais, les cultures sont différentes. Et je vais être très clair. Je dénonce toute forme de violence sexuelle. Ça, je veux être très clair là-dessus, parce que parfois, quand on explique la culture, ça peut créer des nuances.
Tout à fait.
Mais vous savez que chez nous, par exemple, tu sais, je vais prendre l'exemple du Sénégal, okay, la société que je connais le mieux. Taquiner une femme, par exemple, bon, ça se fait. Mais que ça se fait, et puis bon, on fait même le cousinage et tout ça, même la femme de ton copain ou bien de ton frère. Donc parfois, il y a ce qu'on appelle le taquinage. Ici, si nous utilisons la notion de distance, par exemple, des sociétés, et je ne veux pas développer, parce que là, ça prend beaucoup de temps, mais la notion de distance. Chez nous, tu sais, on peut parler, on peut être vraiment proche l'un de l'autre et tout ça. Ici, c'est la notion de distance. Si vous allez, par exemple, au supermarché, mais vous donnez à la personne devant toi beaucoup de... C'est pourquoi même, la première fois, même quand je suis venu aux États-Unis, tu sais, une amie me l'a dit, que mais vous, là, vous êtes trop proche, alors que je... Tu sais, pour moi, c'est le terrain, j'étais en ligne pour payer, je ne connaissais même pas la personne. C'est depuis lors que j'ai connu que, alors ici, il faut vraiment garder la distance. Et je donne ça, c'est des conseils que je donne très souvent, donc, à ceux qui viennent de l'Afrique ou bien des pays arabes ou même de l'Asie, parce que les cultures sont différentes. C'est ce qu'on appelle le high context ou bien le low context. Ça, je ne sais pas comment le dire maintenant en français rapidement. Mm. Mais c'est qu'aussi, il y a des règles quand même qui sont très... qui sont précis, et moi, je suis pour. Parce que là, quand même, ça permet de défendre les femmes qui ne sortent pas. Comme ça, on sait qu'il y a des mesures voilà. de punition qui sont là, en mesure, donc il faut éviter.
Merci, Alassane. Voilà. On va revenir sur Reine Marie Bock. Est-ce que, quelque part, les femmes ne se laissent pas faire? Beaucoup, j'entends dire souvent que... Par exemple, le mot de vestimentaire peut inciter à de pareils actes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, donc voilà, pour répondre à votre question, je vous l'ai dit tout à l'heure, que moi je considère que quelque part les femmes ont quelque chose à voir dans ça, c'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes d'abord des victimes et en même temps elles sont responsables. Responsables pourquoi? Parce que quand elles subissent de tels actes sexuels, c'est vrai, certes, elles sont intimidées, elles sont dominées, mais je pense que nous sommes dans un environnement où toutes les mesures peuvent être accompagnées pour leur suivi. Ça veut dire qu'ici, elles peuvent rencontrer des psychologues, elles peuvent porter plainte, elles peuvent rencontrer des gens qui peuvent les accompagner dans ça. Mais jusqu'ici, on remarque toujours que la plupart des femmes se taisent. Elles se taisent. Donc, moi, je dis, les femmes, elles sont en même temps victimes, en même temps responsables. Maintenant, ce qui est de l'habillement, ben voilà, on ne va pas comparer la façon de s'habiller en Afrique et la façon de s'habiller ici. Le mode vestimentaire, moi, j'estime que ça n'a rien à voir. Nous sommes dans un environnement où on s'habille comme on veut. Je pense que ça n'a pas de raison. Et même, tu peux bien t'habiller, tu es bien vêtu, et voilà, ça arrive toujours.
Voilà.
Donc moi, je ne pense pas que c'est...
Que ce soit une raison.
Voilà.
Voilà. On va prendre l'auditeur Abdoulaye Traoré en quelques secondes, votre réaction. Abdoulaye Traoré? Voilà, Abdoulaye s'occupe certainement de l'enfant. On va revenir vers Henri. Henri, qu'est-ce qu'il faut faire pour punir vraiment les hommes qui sont responsables de tels actes? Et puis, qu'est-ce qu'il faut au niveau des femmes? Parce qu'il y a des responsabilités qui peuvent être partagées.
Alors, c'est intéressant parce que figurez-vous que nous parlions de la situation en Afrique. Il se trouve qu'en Égypte, par exemple, il y a 8 ans, il y a une femme qui a réussi à faire condamner son agresseur pour harcèlement sexuel. Et depuis lors, le regard de la société a évolué et les condamnations ont effectivement augmenté, ce qui d'ailleurs a été reconnu par les femmes qui se sont réunies en collectif. Alors, un chiffre intéressant, toujours en Égypte, selon une étude de l'ONU, il y a 99% des femmes ont été victimes de harcèlement. Et il y a eu en 2014 une loi criminalisant le harcèlement. Il faudrait simplement que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne s'inspirent de l'exemple égyptien.
Voilà. Henri, si vous permettez, on va finalement avoir Jean-Pierre Bécolo qui arrive en fin de cette émission. Jean-Pierre Bécolo, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. On parle de harcèlement sexuel et le prétexte, c'est bien évidemment cette affaire Harvey Weinstein qui est accusé par plusieurs femmes d'avoir essayé de les avoir harcelées. Et Lupita Nyong'o a fait une tribune aujourd'hui dans le New York Times. Vous êtes du milieu, puisque vous êtes vous-même producteur et cinéaste. Qu'est-ce qui justifie de tels actes et qu'est-ce que vous pensez de cette actualité et comment l'éviter? Vous allez vraiment brosser ça en quelques minutes puisqu'on est au terme de cette émission.
Je pense que le cinéma a longtemps évolué un peu en marge, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un vrai monde quand il s'agit de cinéma. Vous savez que le système hollywoodien, même s'il s'agit d'un Hollywood qui est celui des indépendants, c'est-à-dire que des gens qui sont censés avoir une autre conception du cinéma et du monde que l'industrie telle que dure, disons, des gros studios, je pense que nous fonctionnons en marge, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le cinéma tel qu'il se pratique dans le monde réel. Donc vous savez que c'est des métiers où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'appel d'offres, ça a beau être des grosses sommes d'argent, mais ça reste quand même des choses qui se négocient entre personnes et qui, en fait, c'est un fonctionnement presque d'une secte, en fait. Donc c'est pas étonnant donc, d'avoir des comportements aussi de secte, disons, quelque part. Moi, ce qui est décevant, c'est venant des indépendants, de ce qu'aurait dû être le cinéma, de ceux qui sont censés être des artistes, ceux qui sont censés être différent de l'industrie, c'est-à-dire que ceux qui auraient pu, en tant que cinéaste, acteur, producteur et tout, proposer un autre monde, en fait. Ça, c'est un peu la grande déception. Et que tout ça se fait, et ça, tout le monde sait que nous sommes dans un monde à part où on pensait qu'il y avait du vrai talent, mais en fait, c'est des promotions canapées. Il y a toutes ces choses-là, finalement, qui se révèlent au grand jour, et j'espère que c'est une bonne nouvelle pour, disons, les artistes que nous sommes.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre Bécolo. On va finir cette émission. Henri, le mot de la fin, en quelques secondes.
Non, mais c'est au-delà du monde du cinéma, de la musique, le harcèlement fait partie de l'univers du quotidien de millions de femmes. C'est au pouvoir public de légiférer pour faire reculer ce phénomène.
Voilà, Alassane, en quelques secondes, le mot de la fin. Alassane n'est pas là. Reine-Marie Ibok, le mot de la fin pour vous, en quelques secondes. Oui, Alassane, allez-y, en quelques secondes.
Oui, il faut dire qu'il faut que les hommes aussi arrêtent. Mais non seulement ça aussi, il faut arrêter le trafic des femmes et de l'esclavage aussi des femmes, OK?
Merci. Voilà, merci. Reine-Marie Ibok, votre mot de la fin en tant que femme.
Simplement qu'il faudrait conscientiser les femmes elles-mêmes et conscientiser également les hommes pour que ce cinéma l'arrête.
Voilà. Jean-Pierre Bécolo, votre mot de la fin.
Moi, je pense que il y a deux choses. C'est l'ambition, disons, que certains utilisent, donc le désir de réussir de certains. Et je pense que c'est injuste. C'est-à-dire que tout ce qui se fait au niveau public devrait être organisé, légiféré, disons, être fait presque avec des pratiques qui sont des règles acceptables par tous. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de gens qui ont le droit de fonctionner en marge, disons, de tout ce qui est établi pour tout le monde, en fait. Voilà.
Merci beaucoup à tous nos invités. Restez à l'écoute des programmes de VO Afrique. Georges Léonard Sagno assurait la production de cette émission avec l'assistance de Tchèque. Souleymane Tarawale était à la mise en onde. John Lyndon était à la présentation. Je vous laisse en compagnie de Claire Morin-Gibourg pour les informations. Bonsoir.